La voix des notaires. Chers auditeurs, vous écoutez La Voix des Notaires, une émission animée aujourd'hui par Pierre-Alain Bénard, à la technique Simon Martin. Nous recevons Maître Louis Marsol, notaire à Chartres. Bonjour Louis.
Bonjour Pierre-Alain.
Et nous allons vous parler aujourd'hui de certaines transmissions particulières. C'est un peu technique, mais nous allons tenter de clarifier tout cela. C'est très ambitieux, n'est-ce pas? Alors, nous allons vous parler de la donation-partage conjonctive à des enfants issus de lits différents. Hein, vous avez plusieurs unions qui ont lieu, des enfants donc issus de lits différents, et il y a la possibilité aujourd'hui de régulariser une donation-partage conjonctive, quelque chose qui va mettre à plat absolument tout, qui va, du moins tous les biens qui sont concernés, qui sont intégrés dans cet acte de donation-partage, acte reçu naturellement par le notaire, et qui va éviter surtout les discussions à venir et les difficultés au cas de disparition des ascendants. Alors, Louis, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, nous rappeler d'abord brièvement la donation-partage conjonctive, et puis voir comment s'articule cette donation-partage au profit d'enfants issus de lits différents.
Alors, la donation-partage conjonctive, c'est en fait une pré-succession. C'est-à-dire que c'est un couple qui entend de son vivant répartir, donner et partager. C'est-à-dire répartir entre ses enfants, parce que la plupart du temps, enfin aujourd'hui, la donation partage peut être intervenir avec des donataires qui ne sont pas forcément les enfants, mais en admettant que on s'arrête au cas le plus classique, donc deux parents disent bah voilà, de notre vivant, on veut donner et on veut répartir le patrimoine entre nos enfants pour que les choses d'une certaine manière se trouvent organisées, réglées de notre vivant. Voilà, en gros, la définition.
Oui, c'est une anticipation.
Voilà, une pré-succession, une anticipation successorale. Et donc, traditionnellement, il est évident que cette donation-partage, enfin, c'est comme ça que le Code civil l'avait conçu, c'était en fait une donation-partage qui intervenait dans une famille traditionnelle. Papa, maman, les enfants, tous issus du mariage, ce qui était encore, j'allais dire, la règle. Il y a quelques années en arrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles se sont évidemment... Enfin, le modèle familial traditionnel a quelque peu...
On parle de recomposition.
Voilà, ouais, a quelque peu explosé. Oui. Et donc, on parle en effet de recomposition familiale. Bon, c'est une manière d'exprimer les choses.
Mais le législateur... Et les notaires ont une réponse à apporter.
Voilà, donc la pratique notariale a essayé de mettre en place des choses, mais enfin, dans un contexte légal, enfin législatif, qui était quand même très... Ouais. qui contraignait fortement les choses. Et parfois, les choses étaient peut-être un petit peu, j'allais dire, aventureuses d'un point de vue...
Le notaire s'est anticipé.
Voilà. Le notaire s'est anticipé, mais à un moment, il y avait quand même des limites légales.
Hein, bien sûr.
Et donc, la loi de 2006 est venue offrir des outils pour permettre à des familles recomposées, c'est-à-dire, enfin, le cas classique, c'est-à-dire à une personne qui connaît une première union, qui se termine par un divorce ou par un veuvage, qui a des enfants de cette union, qui se remarie une seconde fois... et qui a à nouveau un ou plusieurs enfants dans le cadre de sa deuxième union, et son épouse étant éventuellement dans la même situation. Et donc on se retrouve avec des enfants, des frères germains, des frères et sœurs germains, des frères utérins et des frères consanguins.
Alors comment est-ce que vous allez régler les choses ?
Alors aujourd'hui, donc depuis 2006, il y a donc cette possibilité de faire ce que l'on appelle des donations-partage. En présence d'enfants de lits différents, qui donc autorise à faire un seul acte auquel vont concourir
tous les enfants.
Voilà.
Pour que ce soit une donation partage.
Voilà, pour que le critère essentiel de la donation partage soit rempli. Et donc, pour que la donation partage, évidemment, ait ses effets, c'est-à-dire blocage des valeurs à la valeur donation, ce qui est quand même.
On revient pas dessus.
Voilà, ce qui est l'effet quand même fondamental. Et donc, la loi aujourd'hui nous donne un cadre juridique pour cela. Alors, en respectant quand même des points quand même importants, c'est que les enfants ne doivent recevoir des biens que de leurs auteurs.
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple.
Les enfants non communs ne peuvent recevoir que de leur auteur.
Voilà. C'est-à-dire, je prends un exemple. Les gens sont mariés sur le régime de communauté. Ils ont donc des biens communs, sur lesquels ils ont vocation à avoir 50-50, ils ont des biens propres, c'est-à-dire des biens qui leur appartiennent personnellement, soit qu'ils ont reçu par voie de succession ou donation, soit dont ils étaient propriétaires avant leur deuxième union. Dans ce cadre-là, les enfants communs vont pouvoir recevoir des biens de monsieur, des biens communs, des biens de madame.
Nous sommes d'accord.
Les enfants de monsieur ne vont pouvoir recevoir que des biens propres de monsieur, ou des biens communs, et les enfants de madame ne pourront recevoir que des biens propres de madame et des biens communs.
Bon, c'est clair.
Voilà.
C'est clair. Donc, et avec ça, je dirais que c'est l'assurance tout risque, qui existait déjà à travers la donation partage dans la famille traditionnelle, voilà. Et qui aujourd'hui s'applique grâce à cette loi de 2006 pour les enfants issus de lits différents.
Tout à fait. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans.
Autre cas de figure, chers auditeurs, vous nous suivez toujours. Nous parlons toujours de donation partage. Et là, il s'agit d'associer des descendants de degrés différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants, des petits-enfants. Maître Marsol, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment ça va se passer ?
Alors, là, on est dans une situation un petit peu différente, qui est donc la donation partage dite transgénérationnelle. C'est l'idée de dire... Parce que, dans le schéma traditionnel, la donation partage n'était possible déjà qu'entre parents et descendants. Et si les descendants... En fait, entre descendants, au profit de descendants du plus proche degré. C'est-à-dire que si tous les enfants étaient vivants, eh bien, la donation partage ne pouvait intervenir qu'entre les parents et les enfants vivants. Les petits-enfants ne concourant... qu'en cas de prédécès...
Nous sommes d'accord, venant par représentation.
Voilà, ce qu'on appelle la représentation successorale. Donc, ça, c'était le schéma classique. La réforme de 2006 est venue assouplir cette règle, en disant, pour favoriser, j'allais dire, une circulation plus rapide des patrimoines, puisqu'en fait, c'est un peu la conséquence tirée de l'allongement de la vie et du fait qu'aujourd'hui, les gens héritent de plus en plus tard. En moyenne, je crois que je peux faire une erreur, mais je crois qu'on hérite à peu près 60 ans. Enfin, les gens héritent à une soixantaine d'années, ce qui est aujourd'hui relativement tard. Donc, en fait, ce dispositif est fait pour favoriser une transmission plus rapide des patrimoines. Dans ce cas-là, le schéma est le suivant. La transmission intervient au profit des petits-enfants, voire des arrières, petits-enfants, mais la règle est quand même de viser plutôt l'échelon des petits-enfants. Et en fait, le père ou la mère, donc le descendant, qui est donc l'échelon
celui
intermédiaire...
Celui qui aurait dû recevoir,
l'échelon intermédiaire.
Oui.
Eh bien, intervient l'acte pour dire, moi, je consens à ce que l'on donne à mes propres enfants. Et quand je dis mes propres enfants, ça peut être un enfant, ça peut être... tous ces enfants, enfin, j'allais dire, là, il y a une forme de liberté qui est quand même importante qui est donnée. Dans la succession des grands-parents, eh bien, c'est considéré comme si c'était l'enfant qui avait lui-même reçu.
Donc, ça veut dire, alors fiscalement, je parle tout de suite, je vais traduire ça fiscalement, C'est-à-dire que le petit enfant va bénéficier de l'abattement que son parent...
C'est un peu la limite du système. C'est qu'en fait, la loi fiscale ne tire pas les mêmes conséquences
pas jusqu'au bout.
Que la loi civile. C'est ce qui d'ailleurs fait qu'on n'utiliserait pas ce dispositif-là. Hein, puisque tant que la loi fiscale n'aura pas tiré les conséquences de la loi civile...
Sur le plan civil, c'est sympathique, ouais, c'est très bien. On a passé son tour, ouais, en quelque sorte.
Voilà, parce qu'on estime que soi-même, on n'a pas besoin. Voilà, et que les enfants...
Et alors la traduction fiscale... Finalement, le fisc est un petit peu... Bercy ne suit pas la place Vendôme,
non, voilà.
Et en fait, le petit enfant ne bénéficie pas...
Il ne dispose que de l'abattement qu'il a en tant que petit enfant, qui est quand même beaucoup moins important, puisqu'il est de 31 865 euros.
Et des poussières au lieu de 100 000 euros. Bon, c'est dommage. C'était une belle idée, mais qui s'est pas traduite complètement. Alors, dernier cas que nous allons voir aujourd'hui de transmission particulière, c'est la renonciation à succession. On peut renoncer à une succession, on peut très bien dire, moi, je n'ai pas envie d'hériter ou j'y tiens pas. Concrètement, comment ça se passe, en deux mots?
Alors, comme vous l'avez dit, l'option successorale est un droit, discrétionnaire. C'est-à-dire qu'on peut... sans motivation particulière, on peut renoncer ou accepter une succession. La règle formelle, c'est que pour renoncer à une succession, il faut faire une déclaration dans ce sens auprès du greffe du tribunal de grande instance du lieu du décès de la personne.
De son domicile.
Voilà. Du lieu où la personne avait son domicile. Donc ça, c'est l'aspect, procédural, administratif de la chose. Cette renonciation va avoir pour conséquence que, d'un point de vue civil ou fiscal, sur le principe, la personne n'aura jamais été héritier. Elle sera considérée comme n'ayant jamais existé.
Et elle ne reçoit rien.
Alors
on renonce totalement.
Voilà.
Bien d'accord.
Alors c'est la contrainte, hein, c'est que l'option, elle est dite indivisible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, j'accepte pour ça et je renonce pour ça.
C'est tout ou rien.
C'est tout ou rien. Hein. Et donc dans ce cas-là, l'héritier ne perd cette qualité et est censé ne l'avoir jamais eue. Alors fiscalement. Il faut distinguer entre les renonciations qui sont dites translatives et les renonciations qui sont, elles, non translatives. C'est-à-dire que la renonciation non translative, c'est-à-dire la renonciation au terme de laquelle l'héritier, en fait, ne le fait pas en faveur, ne renonce pas en faveur d'une autre personne, elle n'est pas taxée, enfin, ne donne pas lieu à taxation.
Elle est abdicative.
Elle est abdicative, et donc, à ce titre, elle ne donne pas lieu à taxation particulière. En revanche, si la renonciation se fait in favorem, comme on dit, c'est-à-dire en faveur de quelqu'un au lieu et place. Dans ce cas-là, cette renonciation donne lieu à perception de droit de mutation selon le degré de parenté qui existe entre la personne qui renonce et la personne qui profite de cette renonciation.
C'est ça, la personne qui renonce transfère en même temps son abattement, en quelque sorte, l'abattement auquel elle avait droit éventuellement. Donc il y a une certaine logique là sur le plan fiscal qui est intéressante, nous l'avons vu sur le plan de la renonciation et succession. Eh bien, chers auditeurs, vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons parlé des transmissions particulières. Je vous invite à nous écouter. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le site internet de Radio Grand Ciel. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de votre chère radio. À bientôt. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my honey.